D'abord, c'est un autre mot pour définir la démocratie.
Le populisme, c'est une maladie sénile de la démocratie, interne à la démocratie. Ça n'est pas le tout autre comme peut l'être l'extrême droite qui veut rompre complètement avec la démocratie.
Aujourd'hui, c'est plus prégnant parce qu'il y a moins de force en phase de compensation.
Le populisme n'est pas la maladie de la démocratie. Le populisme est plutôt le symptôme d'une démocratie malade.
Je vous propose de nous arrêter sur le populisme. Un phénomène dont on parlait encore assez peu il y a quelques années, mais qui s'est désormais imposé sur la scène politique et médiatique, au point même de s'installer d'ailleurs à la Maison Blanche, souvenir d'un matin de janvier 2017 sur les marches du Capitole à Washington.
Today, we are not merely transferring power from one administration to another, or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C., and giving it back to you, the people.
Rendre le pouvoir à vous, le peuple, et dans la ligne de mire, les élites, l'establishment.
The establishment protected itself, but not the citizens of our country. Their victories have not been your victories. Their triumphs have not been your triumphs. And while they celebrated in our nation's capital, there was little to celebrate for struggling families all across our land.
Ce discours, on le retrouve ailleurs, en Europe, comme dans ces mots de Beppe Grillo, le leader du mouvement 5 étoiles en Italie.
La politique, ça n'est rien. On n'en a plus besoin. Beppe Grillo, 63 ans, il a commencé sa carrière à la fin des années 70 comme comique.
Je suis Beppe Grillo.
Puis il a glissé vers la provocation avec la journée du va te faire foutre.
Discours anti-élite, souvent accompagné aussi de critiques virulentes pour les médias.
Mais qui vous êtes pour me parler comme
Je
ça?
Je vous pose une question.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
C'est fini votre petit truc.
Non, moi j'arrête pas.
Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a le moyen de vous contredire mais et de vous prendre par la
bande. Attendez,
vous cherchez l'oise, vous la trouvez.
Et surtout, une dimension nationaliste.
Je n'ai pas trouvé un seul populisme qui ne soit pas nationaliste.
La dérive du populisme, c'est d'être à la fois contre les élites et contre les peuples étrangers.
Dérive, cancer de la démocratie, même selon certains, moi j'ai quand même envie de poser cette question. Les mouvements populistes ont-ils toujours forcément tort sur les dérives qu'ils dénoncent? Sont-ils une maladie de la démocratie ou bien plutôt le symptôme d'un mal plus profond de nos systèmes démocratiques et politiques? C'est la question qui est au cœur de ce troisième épisode.
Le populisme, ce n'est pas seulement le pouvoir du peuple, c'est l'idée que le peuple, parce qu'il est le peuple, a toujours raison.
Ça, c'est un ancien député européen français, Jean-Louis Bourlange, qui le dit.
Et si vous dites que le peuple a toujours raison, ça veut dire que vous dites en même temps que les élites ont par principe tort et que les autres peuples, ceux de l'étranger, également ont tort.
La psychanalyste et philosophe Cynthia Fleury, elle, fait cette remarque étymologique.
Le populisme, d'abord, c'est un autre mot pour définir la démocratie, hein, si on prend du côté de la racine latine. En revanche, on voit très bien que tous les régimes démocratiques sont populistes, entre guillemets, tous les régimes populistes ne sont pas nécessairement démocratiques au sens de l'état de droit.
Bon, d'accord, mais alors où se situe la différence ? Il faut peut-être commencer par définir la démocratie elle-même. Et pour cela, j'aime plutôt bien les mots choisis par l'historien français Pierre Rosanvallon dans une interview diffusée par le Conseil de l'Europe.
La démocratie, c'est prendre conscience du fait que nos sociétés sont divisées et qu'elles doivent apprendre des arrangements raisonnables pour vivre entre elles, qu'elles doivent discuter de ce qu'il faut redistribuer, qu'elles doivent discuter des normes de l'égalité.
Considérer le peuple comme un monolithe n'a donc pas beaucoup de sens.
La démocratie, c'est pas simplement le pouvoir de tout le monde, c'est aussi le pouvoir de personne. C'est un pouvoir que personne ne peut s'approprier. Donc c'est toute l'idée de toutes les autorités indépendantes, y compris l'autorité judiciaire, qui sont démocratiques au sens que personne ne peut mettre la main dessus.
Pour résumer, la démocratie serait donc à la fois le pouvoir de tout le monde, de personne, et l'historien français ajoute encore cette troisième caractéristique.
La démocratie, c'est le pouvoir de n'importe qui. Et le pouvoir de n'importe qui, cela veut dire que chaque individu compte pour quelque chose, alors qu'il ne compte pas pour quelque chose chaque individu dans la majorité, hein, qui oublie les minorités. Mais il compte pour quelque chose parce qu'il a des droits. Et donc, les institutions qui sont les gardiennes des droits, les cours constitutionnels, sont essentielles en démocratie.
Si je résume ce que je retiens, le populisme, c'est en appeler au peuple comme un bloc. Se réclamer de ce peuple pour dénoncer les élites, et derrière ce terme, on trouve à la fois la classe politique en place, mais aussi souvent les institutions garantes de l'état de droit. Mais alors, faut-il juste dénoncer le populisme comme une déviance de notre démocratie et espérer que les électeurs, une fois bien sermonnés, reviendraient vers le droit chemin ? Je choisis plutôt, moi, de creuser le sujet et d'aller en parler avec l'écrivain flamand David Van Reybrouck, qui justement, il y a une dizaine d'années, avait écrit un livre en néerlandais au titre assez surprenant, il faut bien le dire, « Plaidoyer pour le populisme ».
Dans ce livre-là, je critique la critique du populisme, que je trouvais trop simple et trop facile. L'idée comme quoi notre chère démocratie serait en bonne forme et en bonne santé, et que malheureusement, il y a cette infection, cette maladie, cette mérule, on va dire, du populisme qui vient gâcher le jeu. Le populisme n'est pas la maladie de la démocratie, le populisme est plutôt le symptôme d'une démocratie malade. Et je pense que dans le populisme, il y a quelque chose de positif. On voit l'engouement de toute une série de citoyens qui n'allaient plus voter, qui ont envie de reprendre les rênes des pouvoirs en main, et parfois qui, des partis politiques qui sont capables de mettre un certain nombre de thèmes sur l'ordre du jour politique qui n'était pas toujours là. Et donc pour moi, le problème en tant que tel n'est pas le populisme. Je ne suis pas d'accord avec un bon nombre de leaders populistes, ne fût-ce que leur idée de cette idée qu'il y a un peuple monolithique et que leur voix représente ce que le peuple en tant que tel trouve et pense. Je trouve ça dangereux, cette idée comme quoi un seul individu serait capable de représenter les tripes de toute une nation. Voilà, on connaît l'antécédent historique et je n'ai pas envie d'y retourner. Mais dans la critique du populisme, il y a quelque chose qui me frustre énormément, c'est qu'on fait à peine la distinction entre les voteurs populistes et les leaders populistes. Moi, j'ai beaucoup plus de sympathie pour ces voteurs populistes que les leaders populistes.
Arrêtons-nous un instant sur ça, parce que ça me paraît important. Selon David Van Reybrouck, donc, l'irruption du populisme serait plutôt le signe d'une démocratie malade. Les partis populistes auraient l'avantage de mettre à l'agenda certains thèmes ignorés par les partis en place. Et donc, plus que ces partis eux-mêmes, il faudrait tenir compte du message envoyé par les électeurs qui ont choisi de voter pour des formations populistes. Et d'ailleurs, David Van Reybrouck me fait cette confidence.
Je pense que si mes grands-parents seraient encore en vie de nos jours, des gens simples, la classe ouvrière, mais je suis assez sûr qu'ils voteraient pour des partis populistes. Et donc, je n'ai pas envie de diaboliser une bonne partie de ma famille ou une bonne partie de la population, parce qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs politiques qui se définissent comme des leaders populistes. Je trouve que les besognes de chaque citoyen valent la peine d'être écoutés.
J'entends bien l'analyse. Mais qui sont-ils alors ces électeurs des partis populistes et surtout, quels sont les problèmes que les partis traditionnels ignoreraient ? Sur ce coup-là, l'écrivain flamand me retourne une question.
Qui représente encore aujourd'hui le prolétariat blanc ? Sauf le leader populiste. Oui, en Belgique francophone, c'est peut-être encore le parti socialiste, dans une certaine mesure, c'est déjà beaucoup moins qu'avant. Mais sinon, aux Pays-Bas, en France, qui est le parti politique ? Quel est le leader politique qui va s'occuper du prolétariat blanc ? Des pauvres blancs, ils existent. Le néolibéralisme a même fait augmenter leur nombre. Je trouve trop facile de démoniser ce peuple. Et je ne comprends pas une gauche qui va avoir de la compassion ou une certaine pitié pour les nouveaux venus, les migrants, et qui vont avoir ce même sentiment beaucoup moins développé par rapport à ce prolétariat blanc. Je comprends pas trop bien. Le socialisme et la social-démocratie ont fait des efforts énormes pendant un siècle et demi pour émanciper l'ouvrier. Et maintenant que la petite fille du mineur de l'époque va avoir un centre solaire quelque part dans le fin fond du Borinage et qu'elle va passer ses vacances à Ibiza, on va plus s'occuper d'elle parce qu'elle a de mauvaises manières. Mais c'est quoi ce genre de gauche qui s'occupe des pauvres tant qu'ils sont sales et illitrés? Et dès qu'il y a une certaine émancipation sociale, économique, on va attendre qu'ils se comportent comme des Norvégiens de l'élite de la social-démocratie. Je comprends pas trop bien.
Donc, le vote populiste serait une sorte de moyen d'expression utilisé par ce post-prolétariat. Mais j'ai envie de m'arrêter sur un point en particulier soulevé par David Van Reybrouck. Cette idée qui vit dans une partie de l'électorat, que le monde politique aurait plus de considération pour les migrants que pour le prolétariat blanc, pour reprendre l'expression utilisée. Si je m'y arrête, c'est parce que ça me fait penser à une réflexion de Vincent de Corbitaire, professeur de philosophie politique à l'ULB, et qui remarquait ceci dans le discours des partis traditionnels en ce qui concerne justement les questions migratoires et les questions d'intégration.
Une difficulté à parler clair. Le monde politique a l'air d'hésiter entre épouser la colère populiste ou nous dire qu'il n'y a pas véritablement de problème. Toutes ces mutations sont finalement positives, au moins à terme, à moyen terme. On a besoin de populations plus jeunes venant de l'extérieur pour rééquilibrer la pyramide des âges, pour occuper des emplois que les autochtones n'occupent pas, etc. Et dans ce deuxième type de discours, on évite évidemment les relents xénophobes, les tendances à la fermeture du populisme, mais on nie la réalité de certaines inquiétudes, de certaines situations vécues au quotidien, parce que la coexistence n'est pas toujours facile dans les quartiers, dans les écoles, dans les usines, etc., etc.
Le populisme, comme signe d'un décalage ressenti par les électeurs entre un discours politique et la réalité du terrain. Si je résume, le monde politique aurait donc tendance, selon nos experts, à négliger les attentes d'une partie de son électorat. Il aurait du mal aussi à parler clairement des sujets qui fâchent, des problèmes dont les solutions sont par essence complexes. Vous ajoutez à cela d'autres problèmes encore, déjà pointés dans cette série, une crise de la décision liée à l'évaporation du pouvoir au-delà de la sphère d'influence des États. On pourrait schématiser en disant que le vote populiste exprime la colère d'une partie de la population qui ne se sent plus écoutée, qui ne se sent plus représentée.
Une démocratie, c'est un régime qui ne peut fonctionner que dans la mesure où les aspirations de groupes au sein de la population trouvent un relais vers les structures de gouvernement à travers les canaux de la communication et d'un certain nombre de médias, dont chez nous les partis politiques.
Benoît Friedman, philosophe du droit.
Donc, effectivement, à partir du moment où il y a des accords, des affiliations de large part de la population par rapport au mode de fonctionnement actuel des gouvernements, eh bien, ils cherchent à s'exprimer, ils trouvent des porte-paroles qui sont prêts à relayer ces aspirations.
Vu comme ça, on pourrait même dire que les mouvements populistes ont une sorte de vertu. Rappeler au monde politique, parfois de manière brutale, que certaines attentes de la population ou d'une partie de cette population sont oubliées.
Ça ne sert à rien d'interdire, par exemple, ce type de parti. D'une part parce que la démocratie se renierait elle-même, et d'autre part parce que, selon un phénomène bien connu, on penserait avoir fait tomber la fièvre en cassant le thermomètre.
Serait donc bien un symptôme de malaise plus profond qui vive dans la société, d'une crise de confiance entre le citoyen et le monde politique.
En ces temps perturbés que nous vivons, soyons vigilants et montrons-nous lucides face aux discours populistes. Ils s'efforcent toujours de trouver des boucs émissaires à la crise, qu'il s'agisse de l'étranger ou des habitants d'une autre partie de leur pays. Ces discours existent aujourd'hui dans de nombreux pays européens et aussi chez nous.
13h15, 14h, démocratie en question, Arnaud Reuss.
Symptôme d'une démocratie en crise, on l'a dit, mais ne serait-il pas aussi quand même une maladie ? Tels partis arrivent au pouvoir, ou si leur discours infuse auprès des autres partis, ne risque-t-on pas finalement d'affaiblir encore le système ? Ou pour le dire autrement, est-ce qu'au-delà de souligner les faiblesses de la démocratie, ces mouvements populistes ne risquent pas tout simplement de détruire cette démocratie de l'intérieur ? Sur ce point, le professeur italien Raffaele Simone, auteur du livre « Si la démocratie fait faillite », relève cette contradiction majeure entre nos modèles de démocratie et le programme des partis populistes.
Il s'oppose essentiellement à l'idée des identités mêlées, au mélange d'identités. Les populistes veulent que l'identité d'un pays soit bien définie, soit relativement unique et soit protégée par quelqu'un, par les autorités. Ça comporte une série de conséquences à tous les niveaux. Au niveau politique, ça signifie nationalisme. Au niveau économique, ça signifie protectionnisme. Au niveau de relations internationales, ça signifie fermeture des frontières. Ce sont donc trois aspects qui sont exactement le contraire de ce que prône le modèle démocratique.
We are going to get the bad ones out. The criminals and the drug deals and gangs and gang members and cartel leaders. The day is over when they can stay in our country and wreak havoc. We are going to get them out, and we're going to get them out fast, and John Kelly is going to lead that way.
C'est une maladie, avec une forme de propagation, en quelque sorte, du virus.
Vincent de Corbitaire.
On voit bien qu'à partir du moment où quelques partis qu'on qualifie de populistes sont parvenus à donner un écho très fort dans les médias, dans le débat politique, à certaines inquiétudes bien particulières, autour notamment de la question migratoire, du terrorisme, de la sécurité, mais aussi des inégalités, de la misère sociale, du sentiment de décrochage de certaines catégories de la population ou de certains territoires. À partir du moment où des partis populistes sont parvenus à capitaliser sur ces thèmes-là, à obtenir des résultats électoraux parfois significatifs, soit arrivés au pouvoir, il crée, on voit ça depuis plusieurs dizaines d'années, un sentiment d'angoisse, voire de panique chez les partis non populistes qui ont l'impression qu'il faut absolument courir au moins en partie derrière ce lièvre-là pour préserver tout simplement des capacités d'agir, un socle électoral et pouvoir mener une politique exempte des excès populistes mais qui aurait intégré ces inquiétudes. Et on arrive après un certain temps à ne plus savoir finalement quel est le degré d'urgence ou de sincérité des exigences populistes, parce que on exagère. On peut croire qu'il y a une majorité de personnes xénophobes ou inquiètes devant l'immigration, l'islamisation, etc., tous les slogans qu'on peut utiliser. On oublie qu'il y a aussi des électeurs d'un tout autre bord, et on voit que dans la société civile, suite aux vagues migratoires récentes, à côté d'un durcissement du discours populiste, il y a des mouvements spontanés de générosité qui peuvent toucher et se répandre dans des publics extrêmement diversifiés. Mais aujourd'hui, le lot commun des politiques semble être de croire que si on veut préserver sa position de pouvoir, il faut absolument aller dans le sens de la rhétorique populiste. Ce n'est pas prouvé. Mais c'est le sentiment que ça donne. Donc c'est une maladie.
Je me risque à une métaphore. Le populisme, serait donc un thermomètre qui nous renseigne sur la profondeur du malaise que connaît aujourd'hui notre démocratie, notre système de décision. Mais le problème, selon Vincent de Corbitaire, c'est que la réponse à ces symptômes de fièvre, apportés par les autres partis en place, non seulement ne traite pas le mal à la racine, mais au contraire aurait tendance à aggraver, à propager la maladie.